Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part un peu en mission. On va tenter de dessiner le portrait robot du basketteur idéal.
Ah, le basketteur idéal.
Mais attention, pas celui de la NBA, non. Celui que l'éducation nationale française rêve de former au lycée.
Et pour ça, on a une source incroyable.
Oui, un document officiel et franchement hyper détaillé, les critères d'évaluation du bac de basketball de l'IPACA.
C'est ça.
Et notre objectif, c'est de décortiquer tout ça. De voir ce qui se cache vraiment derrière les points, les coefficients.
Est-ce qu'on cherche un athlète, un stratège?
Voilà. Qu'est-ce que ça nous révèle sur la philosophie du sport à l'école? On va suivre la piste des points pour mener l'enquête.
C'est une super approche. Et pour commencer, il faut regarder la structure générale. Tout est sur 20 points.
Classique.
Oui, mais la répartition, c'est déjà un indice. Il y a trois gros blocs qu'on appelle les AFL, attendus de fin de lycée.
D'accord.
Le premier, l'AFL 1, c'est le jeu, la performance. Et lui, il pèse 12 points sur 20. C'est le cœur du réacteur.
Donc, la majorité des points, ce qui est logique, on est d'accord.
C'est logique, mais ce qui est fascinant, c'est ce qu'on fait des 8 points qui restent.
Ah oui. Ouais.
Ils sont répartis entre l'AFL 2, qui est sur la préparation, l'entraînement, et l'AFL 3, qui évalue les rôles sociaux.
Les rôles sociaux, c'est-à-dire
être coach, arbitre ou même observateur. Et rien que ça, 12 points pour le jeu, 8 pour ce qui est autour.
Ça nous dit déjà que c'est pas qu'une question de savoir jouer.
Exactement. Un bon joueur, c'est quelqu'un qui comprend le jeu dans sa globalité.
Bon alors, l'enquête est lancée. Commençons par le gros morceau. Et les 12 points sur le terrain pour s'engager pour gagner. Et le document, il commence par un premier domaine, le jeu rapide.
Oui, et c'est pas un hasard. Le jeu rapide, c'est l'essence du basket moderne. C'est punir l'adversaire dès qu'il fait une erreur.
D'accord.
Le document est très précis là-dessus. Il valorise trois choses. La première, c'est la capacité, dès qu'on récupère la balle, à sprinter vers le panier adverse, pour marquer ce qu'on appelle un panier facile.
La contre-attaque classique, quoi. Celle qu'on voit même dans les films. On vole le ballon et on file de l'autre côté.
C'est exactement ça. La vitesse d'exécution, c'est la clé. Le deuxième point, c'est l'autre bout de l'action, être celui qui lance cette contre-attaque.
La passe.
Voilà. Une passe longue, tendue, précise. Et le troisième point est plus tactique, plus subtil. On évalue la capacité à monter la balle en utilisant les côtés, les couloirs latéraux.
Pourquoi les côtés?
Parce que le document dit, en creux, ne restez pas au milieu. C'est là que tous les défenseurs se replient, c'est un embouteillage.
C'est déjà une vision très intelligente du jeu, en fait.
Complètement.
La vitesse est d'une chose, mais bon, sans technique, ça sert pas à grand-chose. J'imagine que le deuxième domaine, la maîtrise individuelle, c'est la suite logique.
C'est le cœur de la machine. Et alors là, ça devient presque scientifique.
Ah oui.
Pour le tir, on a des pourcentages de réussite attendus. On attend plus de 80% en double pas, ce tir en course près du panier.
D'accord, ça c'est la base.
Puis 70% à 1 mètre avec la planche, 50% dans la raquette, 30% en dehors et 20% à 3 points.
Avec le basket moderne où tout le monde shoote de loin, le barème n'est pas un peu daté?
C'est une excellente remarque. Et ça révèle toute la philosophie. Le message, il est hyper clair. Avant de vouloir être Stephen Curry, maîtrisez les bases.
D'accord.
Les tirs de près, c'est pas négociable. On tolère pas l'échec sur les paniers faciles avant d'aller chercher le spectaculaire. La priorité, c'est l'efficacité.
Vu comme ça, c'est très cohérent. Et pour les autres fondamentaux, comme le dribble?
C'est la même logique. Pour le dribble, on insiste sur l'usage à bon escient.
Pas le joueur qui dribble pour dribbler.
Voilà. On veut un joueur qui dribble pour créer un danger, pas pour ralentir le jeu. Pour la passe, elle doit être rapide, précise, et le document bannit les passes en cloche.
Ah oui, ces ballons lents qui sont un cadeau pour l'adversaire.
C'est ça. Et enfin, la maîtrise des appuis, s'arrêter sans faire de marché, utiliser son pied de pivot. C'est un détail, mais c'est un signe de maturité énorme.
C'est vraiment la grammaire du basket. Mais on parle beaucoup du joueur qui a le ballon. Alors qu'un joueur, la plupart du temps, il n'a pas le ballon.
Absolument. Et ça, le document l'a très bien compris.
Comment ça s'évalue?
Par deux aspects cruciaux. D'abord, le démarquage. La capacité à bouger, à se rendre disponible pour les autres. Et ensuite, la défense active.
C'est-à-dire être une nuisance permanente pour l'adversaire.
C'est exactement ça. Contester les passes, aider un coéquipier qui est dépassé, mettre la pression. La défense est vue comme une vraie compétence individuelle.
Bon, cette vision de la technique est hyper complète. Mais le basket, ça reste un sport à 5. Comment on s'assure que ce super technicien est aussi un bon coéquipier? J'imagine que c'est le troisième pilier.
Le troisième pilier, le jeu collectif. C'est là qu'on mesure l'intelligence de jeu. En attaque, le document distingue deux tempos à maîtriser.
Lesquels?
La contre-attaque, dont on a parlé.
Ouais.
Et si elle échoue, le jeu placé.
C'est intéressant cette distinction. Pourquoi c'est si important de savoir faire les deux?
Parce qu'une équipe qui ne sait que contre-attaquer, elle est perdue si elle tombe sur une défense bien organisée qui se replie vite. Le jeu placé, c'est la preuve qu'on peut construire patiemment.
Et les critères, c'est quoi?
Bien occuper l'espace, créer des décalages. Et on arrive à la fameuse triple menace.
La triple menace, ça sonne très hollywoodien, ça.
Mais c'est qu'une idée clé. C'est être un couteau suisse. Quand on reçoit le ballon, le défenseur ne sait pas ce qu'on va faire. Tirer, passer, dribbler.
C'est cette incertitude qui crée le danger.
C'est ça qui donne la fraction de seconde d'avance. C'est le cœur du jeu d'attaque.
D'accord, pour l'attaque. Et comment cette intelligence collective se traduit en défense?
Par trois choses. La première, c'est la discipline. Le repli défensif. Immédiat.
La base.
La deuxième, c'est la communication. C'est noté noir sur blanc. Il faut parler, crier, aide, tire. Une défense silencieuse est une défense morte.
J'adore cette idée.
Et la troisième, c'est la coordination. Les aides, la prise à deux sur un joueur fort, des actions collectives.
Et pour finir sur le jeu, il y a un truc qui n'est ni technique ni tactique. Le respect. Des partenaires, des adversaires, de l'arbitre. C'est vraiment noté, ça.
C'est noté et c'est considéré comme une partie de la performance. Un joueur qui râle, il pénalise son équipe. Le savoir-être fait partie du savoir-faire.
Alors là, on quitte le terrain pour les 8 derniers points. Et c'est peut-être la partie la plus surprenante du document. On ne note plus le joueur, mais le penseur du jeu.
C'est exactement ça. On évalue la capacité de l'élève à prendre du recul. C'est là qu'interviennent l'AFL2, se préparer et s'entraîner, et l'AFL3, choisir et assumer les rôles.
Et le système est malin, j'ai vu. L'élève peut choisir comment il répartit les points.
Oui, il peut faire 4-4, 6-2 ou 2-6 entre les deux blocs.
C'est génial, ça. Ça permet de jouer sur ses points forts. Si on est plus analyste, on met le paquet sur un bloc. Si on est plus leader...
Précisément. C'est une façon de responsabiliser et de valoriser des compétences très différentes. L'AFL2, ça va être la tenue d'un carnet d'entraînement, l'auto-évaluation.
Et l'AFL3?
Là, on demande de maîtriser deux des trois rôles proposés, observateur, coach ou arbitre.
Parlons-en de ces rôles. Observateur, ça sonne un peu passif, mais j'imagine que c'est plus compliqué.
Beaucoup plus. L'observateur est un analyste de données. On est presque dans le Moneyball du lycée.
Carrément.
Oui, il utilise des grilles pour quantifier ce qui se passe. Au niveau collectif, par exemple, il calcule l'efficacité. Sur 100 ballons, combien finissent en panier et combien en perte de balles.
C'est une donnée brute, objective.
Qui dit la vérité sur la performance. Et au niveau individuel, il compile les stats classiques, points, rebonds, passes. C'est un vrai travail de fourmi.
D'accord. Et ça sert au coach, j'imagine. Justement, le rôle de coach, qu'est-ce qu'on attend d'un élève âgé?
Pas d'inventer des tactiques révolutionnaires. L'accent est mis sur la gestion.
La gestion.
Gérer les remplacements pour que tout le monde joue. Gérer les temps morts, les prendre au bon moment pour dire la bonne chose. Et gérer les émotions de l'équipe.
Donc, c'est pas juste un tacticien, c'est un manager, un psychologue presque.
Absolument. Et point très important qui montre la cohérence de tout le système, on attend de lui qu'il utilise les données de l'observateur.
Ah oui.
Le coach ne prend pas ses décisions au feeling, il les base sur des faits. Le tandem observateur-coach est vraiment au cœur de cette évaluation.
D'accord. Il nous reste le troisième rôle, l'arbitre. Ça doit être le rôle le plus ingrat, non?
Et sans doute le plus exigeant en maîtrise de soi. Bien sûr, il faut connaître les règles, la gestuelle. Mais le plus dur, c'est de bien se placer, de décider en une seconde.
Et de faire accepter sa décision.
Surtout. Le document insiste sur la capacité à rester lucide et cordial, même si ça conteste. On n'évalue pas juste un technicien du sifflet, on évalue une capacité à gérer le conflit.
Bon, si on résume tout ça, le portrait robot qu'on vient de dessiner, il est fascinant.
Il est très complet.
Notre basketteur idéal du bac, c'est un athlète, oui, mais c'est surtout un joueur intelligent, au service du collectif, et plus encore, c'est un penseur.
Capable de s'analyser, de décortiquer le jeu, de manager, de faire respecter les règles.
La complétude est assez vertigineuse, je trouve.
Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la performance n'est pas vue comme un talent inné, un truc un peu magique.
Non, c'est une construction.
C'est présenté comme le résultat logique d'une préparation intelligente, l'AFL2, et d'une compréhension profonde du jeu, l'AFL3. La philosophie, c'est pas seulement de savoir faire, mais de savoir penser le jeu.
C'est une vision très moderne du sport.
Tout à fait.
Et ça me laisse avec une dernière pensée. Une question pour la route. Ce document, il est impressionnant dans sa tentative de tout mesurer, de tout quantifier.
Oui, des pourcentages de tirs à la communication en défense.
Mais est-ce qu'on peut vraiment mettre une note sur l'étincelle? Sur le leadership silencieux d'un joueur qui rassure tout le monde juste par sa présence?
Sur l'impalpable.
Voilà. Sur le coéquipier qui, par une blague au bon moment, déstresse tout le monde et change le match. Comment on quantifie l'alchimie d'un groupe? Ce truc qui transforme de bons joueurs en une vraie équipe? C'est une question qui dépasse le basket, en fait.